Vous écoutez
RMC. RMC, jusqu'à minuit, l'afterfoot.
Nicolas Villas.
Avec Flo Gautreau, avec Daniel Riolo, on était en plein débat Ballon d'Or hein, qui a été remis hier à Karim Benzema, bien ah sûr. Bon ouais. Et d'ailleurs, Flo, tu parlais du comportement. Je tenais à te présenter mes excuses.
C'est pas grave.
Franchement, le faire chier tout ça pour parler de Fanfan Pinet,
ouais, on l'embrasse.
Non, mais on l'embrasse pas.
On l'embrasse pas. C'est nul.
Même à l'after, il a un comportement
sur le terrain et à l'after. Ouais. Non, mais alors pour revenir sur le côté le classement dans les Français,
Daniel nous disait Benzema, Platini, Zidane.
Moi, il y a un truc très simple.
Chacun mettra dans l'ordre qu'il veut.
Les quatre autres avant lui, c'est des ballons d'or très estampillés équipe de France par les gens. C'est-à-dire que ce soit le cas ou non dans leur saison, peu importe, tu les associais énormément au bleu. Moi, quand j'étais petit, Platini l'a eu. Que ce soit Saint-Etienne, Juve ou machin, pour moi, c'était le Platini de l'équipe de France.
C'était le héros des Bleus. Quand
même. Voilà, Zidane aussi, puisque 198, le héros des Bleus. Copa, c'était aussi le héros des Bleus. Et Papin, quelque part, même si avec l'OM, il a brillé.
C'est la sale période quand même.
Ouais, là, mais pourtant, le coup, c'est pas les Bleus. C'était l'OM. Hein.
Ouais, mais pourtant, malgré tout, tu l'associes toujours un peu comme ça.
En tout cas,
sur Benzema, c'est clair et net que c'est pas les Bleus. C'est vraiment un club. C'est vraiment le Real. Et je dis aussi que c'est une différence quand même sur par rapport à ce qui se passait avant, parce que les clubs quelque part prennent de plus en plus de poids. C'est aussi la réalité pour les jeunes qui suivent le foot, j'ai envie de dire, cette appropriation de la jeunesse par les clubs, par le business des clubs. Donc Benzema, c'est différent parce qu'il va parler moins à l'imaginaire collectif français parce qu'il n'est pas associé autant à l'équipe de France. C'est pour ça qu'il est difficile de le mettre j'ai entendu Jean-Michel Larquet, je suis assez d'accord avec lui.
Je donne-nous ton trio, stop.
Eh ben, non, moi je mets Platini en tête, mais c'est pour des raisons peut-être liées à mon âge.
L'affect, ouais.
À l'affect. Zidane, Benzema et Copa, juste là. Et Papin en dernier.
Mais un podium, c'est 3.
Je vais déclasser les 5 français, mais dans cet ordre-là.
On a dit un podium, c'est 3. Bah, tu ne fais pas un podium Platini, à la Louis. Tu fais
un. La duel à 2.
Ouais. Platini, Zidane, Benzema.
Platini, Zidane, Benzema.
Ouais.
Bah comme toi, là.
Dans cet ordre-là.
Il n'y a pas donné d'ordre, alors, Daniel, forcément. Mais...
Je vais te dire, la vérité, si on doit être totalement objectif sur la carrière club, Benzema, je le mets devant Zidane.
Et Platini?
Platini, en club, c'est le joueur le plus important de l'histoire de la Juve, quand même. Tu vois, donc c'est pas rien. C'est 3 ballons d'or aussi parce qu'en club, il était meilleur buteur et il gagne.
Alors rappelons qu'à l'époque de Platoche, c'est ce qu'on va dire. À l'époque de Platini, Maradona ne peut pas l'avoir.
Exactement.
Oui, alors très honnêtement, ça, il faut être clair là-dessus. Platini, là, 83, 84, 85, Maradona l'aurait pas eu ces 3 années-là.
C'est pas forcément le.
Maradona, là où il l'aurait eu, c'est 86. Donc c'est Belanov qui lui vole son ballon d'or. C'est pas Platini.
Qui lui vole, non, parce que.
Non, en l'occurrence, en 83, 4-5, Maradona n'était pas devant Platini. Que ce soit 83, ce qu'il fait avec la Juve, et 84 avec l'Euro en France, et même 85, Maradona, il n'est pas encore au sommet à ce moment-là. Il n'a pas encore été champion avec Naples, il n'a pas été encore champion du monde. Donc non, en fait, Maradona, jamais de la vie ne peut être devant Platini.
Mais néanmoins, juste 95, à l'appartement où est Ala, le changement de règle sur le fait qu'on ouvre à tous les footballeurs, à toutes les nationalités, tu as quand même, je trouve, là, ça donne une valeur supplémentaire. Et c'est vrai que Benzema, c'est aussi un football plus mondialisé.
À l'époque, Platini, personne n'était devant lui, hein, même si c'était pour les mecs dans le monde. Hein.
Juste Flo, il y a quelqu'un qu'on apprécie beaucoup dans l'after qui voulait réagir à ton podium.
Dans le podium, c'est quoi? C'est dans les 3 ou dans les 5?
Voilà.
Bah, tu vois, c'est un hommage à Luis. Un hommage déguisé.
Podium des 4.
Alors là, il faut qu'il y ait des 5. Non, il a fait un podium des 5. Alors oui, c'est un bon garçon. Michel Platini qui était là avec Ted Rotten sans flamme cet après-midi. Le triple ballon d'or qui a rendu hommage à Karim Benzema. Michel, avec ce ballon d'or, Benzema devient-il une légende du football français?
Absolument. Quand moi, à mon âge très avancé, je me promène et puis que des gens, ils veulent des gens un peu plus, des gens de notre âge veulent faire signer un ballon ou un maillot à un gamin. Le gamin connaît pas. En revanche, quand il dit oui, mais il a gagné 3 ballons d'or, alors il ouvre des yeux. Je te raconte pas. Le ballon d'or est devenu quelque chose de très important dans la jeunesse d'aujourd'hui. C'était beaucoup moins important, je pense, à notre époque, le ballon d'or. C'était une distinction sympathique, mais bon, aujourd'hui, gagner un ballon d'or, je pense que tu rentres dans le Gotha des grands footballeurs du monde. Oui.
Voilà, pour pour lui. Ouais, donc,
c'est vrai ce qu'il dit.
C'est argent, ce que vous disiez tout à l'heure d'ailleurs. Mmh.
C'est vrai ce qu'il dit. C'est vrai que c'était pas aussi important qu'aujourd'hui, mais l'évolution du foot vers justement, comme le disait Flo tout à l'heure, c'est plus individualiste, plus proche de l'idée FIFA, le jeu.
Les data.
Exactement.
Tu fais ton équipe exactement. Avec les data. Tu fais même une équipe foot aujourd'hui avec même d'anciens joueurs. Ce qui est marrant, tu regardes les mômes qui font des équipes et c'est très bien d'ailleurs.
Toi, t'es en train de regarder ton môme qui joue à FIFA, t'as pensé voir tout ça.
Oui, mais, ce qui est intéressant.
On sent qu'il est derrière.
Ce qui est intéressant en termes de culture foot néanmoins, c'est qu'ils ont mis des data. Mais ils te ressortent comme les anciens joueurs. Et donc, mon fils me parle de Figo, parle de Deco.
Mais moi aussi, il vient me parler d'anciens joueurs en disant, mais il était vraiment bon, lui.
Ouais. Et là, c'est génial parce qu'il y a plus de culture foot qu'avant où on était à l'année juste précédente. Néanmoins, on colle là-dessus des stats, des datas qui ont peut-être pas lieu d'être, mais peu importe. On est quand même dans une idée de culture foot qui est sympa.
Il y a plein de réactions sur l'application Direct Studio, vous pouvez réagir. On vous attend au 32-16 également, où placer Benzema dans la légende du foot français. Il y a Oduseb qui nous dit, son trio lui c'est Zidane, Benzema, Platini, comme vous. Ptigo qui nous dit, Platini numéro 1, Zidane en 2, Benzema en 3. Jérôme nous dit, Papa n'a rien gagné avec les Bleus, mais il a pour lui, c'est Papina dans l'équipe de France.
Ouais.
Oui, mais quand il le gagne, c'est parce qu'il marque plein de buts, c'est parce que l'OM est une équipe qui est installée en Ligue des Champions. Pour moi, c'est un ballon d'or OM, je maintiens là-dessus.
Et il y en a un qui dit, tiens, Ptigo qui nous redit, pour moi, à l'époque, Platini est estampillé Juve. Voilà ce qu'il nous dit.
Parce qu'on
dit, c'est l'équipe de France.
Non,
il a le ballon d'or, il gagne à Juve.
C'est vrai que pour le coup, les premiers titres.
Oui, mais quand il gagne l'Euro 84, il est aussi fort en club qu'en équipe de France. Et puis pour les Français, c'était le héros des Bleus. C'était le gars, à chaque fois qu'il était sur le terrain, tu sais que c'est lui qui allait tirer l'affaire.
Donc, t'avais une année comme 84. Où c'était surévident parce qu'il avait en plus gagné l'Euro avec les Bleus.
9 buts pendant l'Euro.
Et pendant l'Euro. Ouais. C'est un peu comme cette année Benzema, il n'y avait même pas de suspense.
En fait, il faut bien, ceux qui ne sont pas de notre génération doivent vraiment comprendre un truc. Les matchs en équipe de France, à cette époque-là, étaient beaucoup plus importants.
Et ils étaient plus rares, surtout. Donc,
ils étaient plus rares,
plus décisifs.
Mais aussi plus importants, pourquoi ? Parce que les qualifs, ce n'était pas comme maintenant, où tu avais 40 pays qui servaient à rien.
Tu avais le premier du groupe.
Là, quand tu vas te qualifier pour la Coupe du Monde 82, que dans le groupe, t'as les Pays-Bas qui sont vice-champions du monde, que t'as l'Air, qui à l'époque est une équipe forte, que t'as la Belgique. Pour te qualifier, chaque match, c'était au couteau, quoi. Tu les gagnais pas tous, tu te baladais pas dans les groupes de qualifs. Donc, les matchs étaient importants. Et quand tu brillais dans les matchs, aujourd'hui, quand tu brilles dans un match de qualif, qu'est-ce qu'on dit à chaque fois? Ouais, bon, c'est un match de qualif. Oh, à l'époque, quand t'étais bon dans un match de qualif, c'est que t'étais bon tout le temps, quoi.
Bien, je vous propose d'écouter Jean-Michel Larquin, qui était aussi dans Rotten sans flamme tout à l'heure. Alors, pour lui, Benzema, il est pas dans le top 3 des joueurs français. Écoutez-le.
Je pense que dans le football français, à l'heure où on se parle, il y a trois légendes. Pour les plus anciens, il y a Copa, parce que c'était un joueur hors norme et qui a gagné plusieurs ligues, plusieurs coupes d'Europe des clubs champions, avec le Real. Il y a Zinedine Zidane et Platini. Ou Platini et Zinedine Zidane. Et je pense que pour Karim, je pense qu'aujourd'hui, au Real, c'est une légende.
Ah, bien sûr.
Ouais. Je pense qu'au Real, c'est un joueur majeur du Real. C'est un immense joueur dans le football français, mais ce n'est pas à proprement parler, selon moi, une légende.
Alors Jean-Michel Larquet qui rajoute derrière, si jamais il venait à remporter le mondial, là on pourrait rediscuter. Ça rejoint le débat qu'on avait il y a quelques instants.
Il lui manque cette dimension équipe de France. Alors Larquet lui ajoute Copa parce que dans sa génération,
c'est l'équipe
Copa
de France.
Et effectivement, nous, Copa, on l'a pas. Donc
on l'a pas pour des raisons générationnelles, mais là où j'entends totalement ce que dit Jean-Michel, c'est vrai que quand tu passes après quelques années, tu laisses passer du temps. Quand tu arriveras sur Benzema, tu auras l'image d'un Benzema, sauf s'il gagne la Coupe du Monde, mais tu auras l'image d'un Benzema avec le maillot blanc. Ce sera ça l'image. Alors que tu avais l'image de Platini pour nous avec le maillot bleu. Tu avais Platini, 82, Séville, même le match perdu, peu importe. C'est ça qui est.
Benzema, il gagne la Coupe du Monde avec les Bleus et c'est un joueur majeur. Et franchement, ça va faire mal à beaucoup de gens, mais je me demande dans quelle mesure il passe pas devant Zidane.
C'est vrai qu'au niveau palmarès, ne serait-ce que ça, performance.
Les Ligues des Champions, joueur clé d'un Real Madrid stratosphérique.
Ouais, mais après Zidane,
et tu fais
dimension.
Gagner une Coupe du Monde à ton équipe.
Après Zidane, c'est la première Coupe du Monde, mais il n'y a pas que ça. C'était même le style de joueur que c'était, tu vois.
Benzema, c'est un style de quoi? Il n'est pas fort sur le terrain.
Mais
en
termes techniques, Zidane, c'est encore autre chose. Ouais, et pourtant, moi, je suis pas forcément.
Je vois ce que tu veux dire. Zidane, il y avait un geste.
Une élégance de fou et tout.
Mais il n'empêche que.
Mais je te dis pas, oui, que t'es pas technique, Benzema. Je te dis que Zidane, c'est encore autre chose.
Benzema, ce qu'il fait, l'intelligence de jeu.
Moi, je te dis pas, Daniel.
Comme disait Flo, il tire quand il faut tirer, il passe quand il faut passer, il rend meilleur les autres, il gagne combien une tripotée de Ligue des Champions. Pérez.
Il dit que c'est un mélange de Ronaldo Nazario et de Zidane.
S'il gagne la Coupe du Monde, c'est sûr qu'il va bousculer l'histoire.
C'est sûr.
Alors, s'il gagne la Coupe du Monde, et pour revenir sur mon histoire d'attitude, Zidane, lui, a de sérieux problèmes avec ses histoires d'attitude et de carton. Oui, que n'a pas aussi. Benzema. Ah, pour moi, ça compte.
Ça compte
dans
Benzema,
une carrière.
Sur le terrain, le mec, il prend jamais un carton.
Il rate un ballon d'or à cause de ça, Zidane, d'ailleurs.
Oui, absolument.
Donc, il en aura deux.
Rappelons-le.
2002.
Zidane n'a qu'un seul ballon d'or. Un deuxième lui était promis. Il ne l'a pas eu à cause du coup de boule qu'il met dans un match contre Hambourg.
On va accueillir Samir qui nous a appelé au 32-16. Salut Samir.
Salut Samir.
Salut les gars, ça va?
Et toi?
Bah écoute, c'est passionnant tout ça.
C'est quoi ton trio, toi, du quota des joueurs français?
Ok, bon, sans faire offense à Papin et à Copa, il n'y a que M. Larquet qui peut en parler.
c'est pas cool, ça.
Non, je rigole. Non, je les écoute tous les jours. Non, Copa, c'est trop vieux. Je vais pas parler de quelque chose que je ne sais pas. Papin, ça m'a l'air d'être un petit peu en dessous des trois autres. Un petit peu, même beaucoup. Mais bon, il a eu son ballon d'or. Après, le trio, vous, je sais qu'il y en a, ils vont mettre Platini parce que c'est votre génération. Pour moi, personnellement, ça va être Zidane. Mais si mon fils, je lui parle, il va me dire Benzema. Mmh. Ça va être une génération. Après, moi, je suis d'accord pour les mettre dans l'ordre. Ça va être la sensibilité de chacun. Mais franchement, Daniel, j'ai entendu dire quelque chose. Et hier, je l'ai dit à un ami à moi. Il n'était pas d'accord, mais je lui dis, c'est dur de dire ce que je vais dire. Hein. Mais dans deux mois, si Benzema, il porte la France, il prend la Coupe du Monde, il passe devant Zidane.
Ah ouais, toi aussi, tu dis comme Daniel.
Pour moi, il n'y a plus de débat. C'est fini. Parce que 5 Ligues des Champions, c'est incroyable ce qu'il a fait. C'est trop. Alors que, je ne sais pas, j'étais passé avec Daniel et Jérôme là, en plein Covid. Là, on avait fait le débat karting F1. J'étais passé avec vous à l'ancien. Moi, je suis repassé depuis. Et hier, je vois le ballon d'or venir en F1.
Ouais, c'est énorme, ça, ou pas?
C'est drôle. Fou.
On y a tous
pensé. C'est pas possible.
Ouais, je pense. Ouais.
Il y a un joueur dont on n'a pas parlé et qui, pour le coup, arrive sur le podium des quatre pour moi. On l'a pas cité du tout. C'est
Thierry Henry. J'allais venir.
Thierry Henry a gagné la Ligue des Champions.
On n'est pas obligé de parler de ballon d'or.
Il n'a pas eu le ballon d'or. Il a quand même été champion du monde, même s'il est gamin. Mais il est dans l'aventure. On va dire qu'il est champion d'Europe, d'un bel Euro.
Et il est buteur aussi.
Pardon?
Il est buteur au mondial. Quand même, à la Coupe du Monde. Il n'est pas que gamin sur le banc.
Il n'est pas dans les personnages centraux. Quoi, tu vois. Mais bon, mine de rien, il est quand même champion du monde de la première Coupe du Monde des Bleus. Il est champion d'Europe.
Il est meilleur buteur d'histoire d'équipe.
Le ballon d'or, il ne l'a pas eu. Et très honnêtement, en 2004, il était dans les candidats avec Deco et celui qui l'a eu, Shevchenko, cette année-là. Mais c'est un palmarès ébouriffant aussi. Il a marqué l'histoire d'un club. Absolument, Arsenal. Thierry Henry, pour moi, arrive immédiatement collé tout de suite derrière dans le podium des 4.
Il y en a un aussi collé juste derrière. Hein. On n'en a pas encore parlé. Ribéry, je suis désolé, en 2013.
C'est vrai qu'il passe pas loin non plus, lui.
Vous avez pas compris ?
Ribéry.
Beaucoup très très loin derrière.
Ouais, mais quand même, il a marqué le Bayern Munich. C'est vrai quand
mais...
je crois pas,
dans l'histoire du Bayern, il va y en avoir beaucoup avant lui. Et avec tout le respect, je pense qu'il aurait dû avoir le Ballon d'Or en 2013, je l'ai dit 1000 fois.
Voilà.
Mais pour moi, il est très loin derrière. Quand même.
Mais parce qu'en fait, c'est ça le paradoxe, c'est pas parce que t'as le Ballon d'Or.
Oui, voilà. Parce qu'on est avec Papin,
que j'adore. Je suis un fan absolu en tant qu'attaquant, mais c'est pas parce qu'il a le Ballon d'Or qu'il passe devant Henry. Par exemple, tu vois, Papin, il est derrière Henry dans France.
Samir, merci d'avoir été avec nous.
Ouais, il y a pas de souci. Bonne soirée à vous.
Merci à toi aussi. À bientôt, ciao, Samir. À bientôt.
Il y a un truc sur Benzema qui est très curieux, comme le disait Daniel tout à l'heure, dans le timing de sa carrière. C'est quelqu'un qui a énormément changé de style de jeu, de physique, et qui est à son summum à un moment où parfois certains régressent. Et il y a une stat très intéressante que j'ai vue sur Twitter. Je sais plus quel journaliste a mis cette stat sur les âges, en disant qu'il y avait soit des jeunes qui brillaient, soit des 28-32, ou des 30-34 même. Et qu'il n'y avait plus, à une époque, on disait toujours le climax, c'est 25-30.
Ouais.
Eh bien, c'est pas forcément le cas. Ça veut dire qu'aujourd'hui, quelqu'un qui est sérieux, qui travaille comme Benzema.
Il l'a eu à plus de 30 ans.
Ils l'ont tous là. Regarde, Lewandowski, c'est des joueurs qui sont âgés.
Quand il l'a eu en 2018.
Ah oui, forcément.
Je sais pas pourquoi.
Ici, oui, non. Attends,
2018, c'était quand même il y a 4 ans.
Ouais,
mais enfin, mais bon, il en a 36 ouais. là.
Oui, ouais, il doit y avoir plus de 36.
Et, okay, et c'est vrai que regarde, les Messi, Ronaldo qui jouent encore à un niveau, enfin, qui jouent encore, on va dire, il y a quelques 6 mois, 1 an, encore un gros niveau. Benzema, qui sur la fin de sa carrière, entre guillemets, fait un truc incroyable avec le Real. Et surtout, après le départ de CR7. Parce que qui aurait parié après le départ de CR7 qui prendrait et le costume.
En fait, il s'est passé l'inverse de ce qu'on imaginait, enfin, de ce que beaucoup pouvaient imaginer. C'est-à-dire que Ronaldo, finalement, s'est vautré. Et que c'est Benzema qui a explosé.
Et sauf que ce parcours, il est assez intéressant pour, notamment, et, ça, et je vais le mettre en miroir de Giroud, puisque la France est partagée entre ces deux joueurs. Ces deux-là ont en commun un truc. Le travail et la résilience. Les deux, ils sont dans des cas très différents, avec des parcours incroyablement différents. Mais ils ont un truc, c'est que ces gars-là ont progressé tout au long de leur carrière et ont cherché à progresser tout au long de leur carrière.
Dans quelques instants, avis tranché de Flo Gautreau sur Thibaut Courtois, donc qui a terminé 7e du Ballon d'Or. On va l'écouter d'ailleurs, Thibaut Courtois, qui a fait un petit coup de gueule, on va dire, à la télé espagnole. On va l'écouter dans quelques instants. On vous attend d'ailleurs pour réagir à ce Ballon d'Or. Vous pouvez continuer de donner vos trios du Gotha des footballeurs français. Et pour réagir également à Thibaut Courtois, on vous attend 32-16 avec Daniel Riolo et avec Flo Gautreau. À tout de suite dans l'After.
RMC, 22h, minuit, l'afterfoot.
Nicolas Villas.
23h17 précisément, vous êtes sur RMC dans l'after avec Florent Gautreau, avec Daniel Riolo. On évoquait le Ballon d'Or, la cérémonie du Ballon d'Or d'hier. Karim Benzema qui a été sacré, vous le savez. Alors soirée qui a été marquée aussi par quelques petites piques. Thibaut Courtois qui a remporté le trophée Yachine du meilleur gardien. Tiens, question de la TV aux Belges. Quand un gardien remportera-t-il un Ballon d'Or? La réponse de Thibaut Courtois.
Franchement, ça me paraît impossible. Parce que Karim le mérite, on est tous d'accord avec ça. Mais après une année où, en tant que gardien, tu gagnes la Champions, la Liga, et que ton équipe gagne grâce à tes arrêts, tu ne termines que 7e, ça en dit long.
Voilà, et Flo, t'avais un avis tranché, toi, là-dessus, justement, sur cette 7e place de Thibaut Courtois au Ballon d'Or.
Florent, il est remonté contre tout ce qui bouge et tout ce qui fait en sorte de le dépasser par la taille.
C'était un guignol.
Quel honneur, Jean-Michel. Oui, je vais partager le seum de Thibaut Courtois pour une fois. Parce que je trouve ça... Alors, je vais parler de sa position et du débat plus global qu'il a lancé sur les gardiens et qui était la question posée par le journaliste. Je trouve ça assez injuste, paradoxal et un peu un contresens du foot actuel, ce qui se passe avec les gardiens. Alors rappelons que Lev Yashin a donc été le seul gardien à obtenir le Ballon d'Or en 1963. Pour info, les podiums, les gardiens qui ont été sur le podium, il y en a eu 7 fois un gardien sur le podium du Ballon d'Or en 66 éditions. Pas énorme.
Ouais, c'est pas énorme.
Zoff a été deuxième derrière Cruyff en 73. Victor, le Tchèque, qui était l'autre héros de Panenka, la fameuse finale de l'Euro, deuxième derrière Beckenbauer en 74. Kahn a été deux fois troisième, Oliver Kahn. Buffon, deuxième. Buffon, en 2006, aurait pu le gagner. Ouais. Deuxième derrière Cannavaro. On n'a pas mis
un
gardien.
Il y en a pas mal qui militait pour lui, d'ailleurs.
Oui, bien sûr. Ça aurait été tout à fait justifié. Et il est quand même passé derrière un joueur de champ, en l'occurrence un défenseur, c'est assez rare aussi. Et puis Neuer, troisième, également en 2014, derrière Ronaldo et Messi, puisque c'était la période Ronaldo-Messi. Donc, en gros, personne ne le gagne, sauf Yachine en 63. Je suis d'accord avec Courtois pour dire qu'il n'y en aura pas, parce que en fait, c'est paradoxal, à l'ère où les gardiens sont de plus en plus des joueurs de foot à part entière, à qui on demande d'être très fort au pied, d'être les premiers lanceurs, c'est à ce moment-là qu'on les exclut un peu du champ de ce que Daniel disait tout à l'heure, à savoir la récompense un peu ultime individuelle pour un footballeur. Pourquoi ? Parce qu'en 2019, ils ont créé ce trophée Lev Yashin. Et à partir du moment où ils ont créé ce trophée Lev Yashin, c'est pour se donner la possibilité de vraiment récompenser et de mettre sur le devant de la scène un gardien, mais en aucun cas pour lui donner le Ballon d'Or.
Effectivement, ça suffit pas à assouvir les frustrations des
non,
gardiens.
Non, ça ne suffira pas, mais en revanche, c'est assez intéressant parce que je trouve que jamais le gardien n'aurait autant mérité, de par sa participation au jeu aujourd'hui, de par l'importance qu'il a, comme l'a dit Courtois, dans les résultats. Alors, il y a des années, il se fera dépasser par un joueur, il se ferait dépasser, comme cette année, par un Benzema qui est incontestable. Mais même des années où il aurait pu l'avoir, comme Buffon en 2006, il ne l'a pas. Et il l'aura de moins en moins. Et ce trophée Yachine est comme la défaite assumée pour dire on ne donnera pas le Ballon d'Or à un gardien où ce sera très compliqué pour un gardien de l'avoir. Donc au moins créons-lui un trophée. Et la dernière chose sur ce trophée du gardien, c'est de se dire, comme Courtois un peu, c'est-à-dire que quels que soient les arrêts, quels que soient les trucs, aujourd'hui un gamin, n'est pas forcément attiré pour dire je vais être Dinosov, je vais être Manuel Neuer, enfin je vais être Oliver Kahn. Alors qu'au petit, ça nous arrivait de dire dans la cour, je me jouer au gardien de but. Donc,
maintenant,
je pense que c'est une notion, attends juste pour finir, un peu FIFA, le jeu, encore j'y reviens, c'est le gars qui marque.
Le gars qui marque, il a toujours fait rêver les gens. Vrai, le gars qui marque, c'est celui qui fait la différence.
Jamais, et je le regrette.
Foot, le foot, c'est un jeu offensif, non, Daniel, c'est ça. J'admire une tonne de gardiens, mais tu reconnaîtras pas. Mais tu l'as dit que finalement dans l'histoire, des cas ou des années où on s'est dit, tiens, un gardien aurait pu l'avoir 4-5 fois en 60 ans.
Mais là, c'est même pas le cas. C'est gardien peut être plus haut. Septième, il est pas sur le podium, il est septième.
Oui, je suis d'accord.
Alors, rappelle, il est derrière Mbappé, Salah, Lewandowski, De Bruyne.
Franchement, c'est Imani,
Benzema, forcément.
Non, mais... si, je suis désolé. Si. Qu'il soit derrière Lewandowski, derrière ça me choque Mbappé. Pas. Qu'il soit derrière Sadio Mané, ça me choque pas. Qu'il soit derrière.
Salah, Mbappé. Et De Bruyne.
Salah,
mais Daniel, De Bruyne, ça te choque pas.
Ah, peut-être juste Daniel, Mbappé, c'est tout.
Daniel, ça
mais sinon, le reste, non.
Ça te choque pas parce que, et je vais te faire, ça, pour toi, ça va être un compliment, mais pour moi, ça n'en est pas un. C'est parce que tu fais partie de ces gens qui accordent pas assez d'importance au rôle du gardien de but dans une équipe. Comme Platini avait dit en arrivant, je le rappelle toujours à la tête des Bleus, moi, vous savez, les gardiens, moi, je sais pas trop, etc. Il y a eu cette époque-là, il n'y a pas si longtemps. Aujourd'hui, bien sûr, maintenant, il y a les entraîneurs des gardiens, il y a des spécifiques. Les gars, Lolichon, t'en parlerait pendant des heures. Oui, maintenant, c'est plus important. Mais il y avait encore des moments, il y a encore des équipes aujourd'hui. Le RC Lens l'an dernier avec le cas où on faisait pas assez de cas du poste de gardien de but. Maintenant, c'est plus le cas. Et aujourd'hui, on leur donne des responsabilités énormes, où c'est ultra dur, en général, depuis la nuit des temps d'être gardien.
Et tu l'aurais mis où par rapport au classement?
Ah, bah, moi, je l'aurais mis au moins dans les 5 premiers, forcément. Et peut-être sur le podium.
D'accord, bah, ok.
Et il est, non, mais ce que je veux dire, c'est que forcément, l'année où il peut l'avoir, Buffon, il l'a pas, il est deuxième. L'année où il doit être sur le podium, Courtois, il est septième. Je veux dire, je trouve injuste de voir que ce poste qui n'a jamais été aussi important, le changement de règles pour les gardiens en 92 avec la passe aux gardiens,
Il est Neuer en 2014
troisième.
Ouais.
Là, l'autre meilleur gardien, c'est Mike Maignan, il est 25e.
T'en rends compte un peu?
Ouais, non, mais.
Je pense juste
que. Non, mais en plus, Daniel, je suis d'accord. Le Real, l'année dernière, il a la Ligue des Champions, ils ont des matchs miraculeux, mais l'homme qui réalise des miracles, très souvent, c'est lui, hein.
Courtois, mais
c'est ce qu'il dit d'ailleurs.
Mais je te le répète, je dis, dans l'histoire, en 60 ans, combien de fois on se pose la question pour un gardien? C'est pas une tonne de fois.
Pour gagner.
Non, mais lui, il te dit pas de le gagner, il te dit pas septième.
Maintenant, je te dis pas que c'est pas un poste important. Je rejoins Flo, je te rejoins. Dans le top 5, assurément, il aurait mérité d'y être. Voilà, je suis d'accord avec toi.
Plus généralement, c'est pas pour le gagner dans les 66 années. C'est que plus généralement, même là encore, quand Nico donne le classement, pour que les gardiens soient mieux représentés. Moi, j'ai jamais vu une génération de gardiens aussi forts globalement. Dans tous les secteurs du jeu, le gardien de City, Ederson, Alisson, Becker, Courtois, Maignan. En France, on a Maignan aujourd'hui, qui est un énorme gardien de jeu, qui n'est pas titulaire en bleu, mais c'est un autre débat. Donc, si tu veux, à l'ère où on a. Moi, je vivrais là en ce moment gamin, paradoxalement, j'aurais envie d'être gardien de but, j'aurais envie d'être Mike Maignan.
Bah, tout à l'heure, tu disais, ils ne font pas rêver.
C'est-à-dire.
Bah, tu dis aujourd'hui.
Non, aujourd'hui, il se trouve que oui, je suis obligé de le constater. Mais je veux dire, moi, avec mon œil de technicien, de fan de foot, j'ai jamais vu autant d'importance accordée.
Pas le poste qui fait moins rêver, hein. Je pense qu'arrière gauche, arrière droite, c'est pas pour moi.
T'as raison. Mais je veux dire, c'est génial de voir qu'on dit aux gardiens maintenant, c'est évident qu'un gardien peut participer au petit jeu à l'entraînement, que les gardiens sont forts. Tu as vu les relances et les premiers lanceurs qui a fait cette passe à l'hiver. Bah, c'est le gardien de Liverpool, c'est Alisson qui a fait, Ederson qui a fait cette passe décisive.
Thiago Costa en Ligue des Champions.
Non,
mais il l'a fait aussi. C'était le premier jour de la Ligue des Champions qui a fait un
gardien. Jamais le poste n'a été aussi important et n'a autant changé, et jamais il a été aussi peu représenté dans les grands classements.
On va accueillir Christophe qui nous a appelé au 32-16. Salut Christophe.
Salut Christophe.
Ah. Oui, salut à tous.
Ouais, ça va Christophe?
Ça va, et un bonjour particulier à Daniel. Bon, je suis particulièrement fan parce que c'est un mec qui a, même si moi je suis supporter de l'OM et lui plutôt PSG, mais je reconnais que c'est un gars qui a des opinions assez justes. Donc assez.
Merci.
J'aime beaucoup. Voilà, ouais, moi mon trio c'est très simple, c'est Zidane.
Attends, tu reviens au trio des Bleus. Ok, vas-y, on y va.
Ah non, au niveau des gardiens, on est où au gardien là?
Ouais, on parlait de Courtois, mais.
Courtois, oui.
Courtois, 7ème scandale ou pas pour toi?
Ouais, dans le top 5 il méritait, ouais, franchement. Ouais, top 5. Franchement, il méritait parce que ça fait quelques points qu'il est au top. Et c'est vraiment un super grand gardien, Courtois. Mais j'en viens au trio des Bleus. Moi,
vas-y.
J'en viens, pour moi, c'est Zidane. Je suis un fan archi absolu de Zidane. Parce que pour moi, c'est le joueur déjà au niveau de l'efficacité. Mais en plus, l'élégance. J'ai jamais vu un joueur aussi élégant sur un terrain. Quoi. Une fluidité dans les gestes, une élégance. Un truc de fou. Magnifique à avoir joué, efficace en plus. Quoi. En plus, il a été champion du monde. Il a tout gagné avec le Real. Et en plus, il a fait une carrière d'entraîneur derrière. Donc
ça, tu mets Zidane après, qui d'autre ? Vas-y.
Zidane, Platini, Copa. Et derrière, ce trio-là.
Ah, tu mets Copa, ok.
Ouais, Copa, ouais. Parce que Copa, il a marqué son époque quand même. Il a été ballon d'or avec le Real. C'est quand même un grand monsieur. Et derrière ce trio-là, on parle de Papin, mais moi, il y a un joueur dont on ne parle pas. Enfin, dont on n'avait pas parlé, je pense. C'est Juste Fontaine. Qui avait marqué son époque aussi. Juste Fontaine, c'était un Papin de l'époque, quoi, en 58, meilleur buteur. Il a toujours le record avec 13 buts de la Coupe du Monde.
Donc, après, on ne l'a pas vraiment vu jouer pour pouvoir juger. C'est surtout ça.
Attends, Pelé, il a joué à la même époque aussi, hein, je veux dire. Voilà, mais c'était des joueurs qui ont marqué dans la époque. On n'a pas vu jouer, mais il ne faut pas oublier qu'il y a eu du football avant cette époque-ci, quoi, je veux dire, voilà. Donc, il y a des joueurs comme Gerd Müller qui ont marqué à leur époque, etc. Voilà. Mais Fontaine, c'est quand même un sacré buteur, quoi. C'était un sacré bombardier, hein. Moi, j'en ai toujours entendu parler par les anciens et ils m'expliquaient. Et il y en avait un aussi, dont on m'a beaucoup parlé. Ça, c'est encore plus vieux, c'est l'arbitre Ben Barek. Si ça, c'est encore plus vieux, c'est
bien.
Là, t'es dans le vintage.
Là, t'es pas loin d'être dans un produit de niche, hein.
Ouais, mais carrément, l'arbitre Ben Barek,
c'est un super aussi.
Phénomène. c'est vrai, effectivement.
Non, mais c'est vrai.
Non, déjà, Juste Fontaine, je le mets pas, hein, pour te répondre. Il y a ce record, c'est un mec qui a marqué une époque, mais il a rien à voir avec, c'est pas du tout les mêmes carrières club et tout. On parle pas de la même chose, là.
Merci, Christophe, d'avoir été avec nous.
Salut, Christophe. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Bonne soirée, Christophe. On va ouvrir le dossier sécurité dans quelques instants. On sera avec Florian et Mickaël dans l'after dans quelques instants. Dossier sécurité. Il y a un bilan qui a été fait là par le Figaro, d'ailleurs, sur les interpellations qui ont eu lieu en France lors des derniers mois. On vous explique tout ça avec Daniel Riolo et avec Flo Gautreau juste après ça.
RMC jusqu'à minuit, l'after foot.
Nicolas Villas.
C'est logique de faire cet hommage.
Franco Gatti nous a quitté aujourd'hui. Voilà, et hommage de l'after à Franco Gatti. J'adore. C'est ma journée. Petit d'ailleurs.
Est-ce que c'est pas la chanson qui est une des plus passées dans les mariages?
Ah ouais.
Dans les bals populaires.
Dans les voitures.
Je l'ai mis dans mon mariage. Ouais. Non, vraiment? Il y a 5 ans. Bah non, mais t'es obligé de mettre ça.
Je ne sais pas.
Ah, j'adore.
Moi j'adore.
J'avais gagné une cassette.
Ça fait partie de la culture populaire.
Écoute bien, Nico, il y a une cassette à l'époque. J'avais gagné une cassette Elf dans une station service. Et ça commençait par ça. Donc j'avais été
ça doit être Festival de San Remo 80 ou 81.
Ouais, il est là, incollable sur Franco Gatti.
Non, c'est parce que le Festival de San Remo, c'est une institution en Italie quand même.
Les gars, on va ouvrir le dossier sécurité. On va accueillir, on aura deux invités, d'ailleurs deux anciens stadiers. On aura Florian qui a travaillé plusieurs années à la Beaujoire comme stadier, puis comme responsable d'équipe de stadier. Et puis Mickaël, qui a assuré également la sécurité autour de plusieurs stades en France, qui aujourd'hui réalise des formations et des audits sur la sécurité. Salut Florian.
Salut tout le monde, bonjour Lester, bonjour Florian. Daniel, bonjour Nico, bonjour Florent.
Merci d'être avec nous, Florian. Mickaël qui va être là d'une seconde à l'autre. Juste Florian, pour être très précis, pour aborder ce thème qui est un petit peu technique, hein, également. Il y a une vraie distinction à faire entre les stadiers et les agents de sécurité. C'est pas la même chose, explique-nous.
Ouais, exactement. En fait, si on part du principe même, le stadier va avoir justement un rôle d'accueil en fait à la base, alors que l'agent de sécurité, lui, au cours de l'événement, il va être apte à intervenir et il dispose surtout, quelque chose d'important, c'est une carte pro. Donc normalement, c'est une formation, voilà, à proprement dit, pour pouvoir intervenir dans un stade.
Voilà, la distinction est faite. Et Mickaël est là également. Salut Mickaël.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous, Mickaël. Alors, Florian vient nous expliquer qu'il y avait donc une distinction entre les stadiers et les agents de sécurité. Autre distinction également, c'est la formation. Hein. Ce n'est pas du tout la même formation pour les agents de sécurité et pour les stadiers. Hein. Explique-nous.
Non, ce n'est pas la même formation. En fait, déjà, même pour situer le bordel, c'est que en sécurité, il y a plusieurs formations qui sont dispensées. On peut avoir des formations de 175 heures et allant jusqu'à d'autres formations qui peuvent durer 3 mois.
Et alors que, pour, Alors que pour l'agent de sécurité, pour le stadier, lui, c'est une journée, quoi, c'est ça?
C'est une journée.
Ouais, c'est pas pareil.
Et encore, je me permets d'intervenir directement. Franchement, le stadier, il peut être recruté comme n'importe quand, en fait, dès qu'on a besoin de lui. En tout cas, nous, c'est comme ça au FC Nantes,
oui.
En tout cas.
Oui, ils prennent sur des personnes en les utilisant comme mode d'accueil, et puis ils contournent la loi, justement, passer, parce que bon, dans la loi, je ne vais pas rentrer dans les termes techniques, mais il y a la loi qui dit que toute personne est amenée à intervenir en cas d'agression ou autre. Et un hôte d'accueil, donc, comme c'est un civil, il est amené à intervenir, et c'est comme ça qu'on contourne la carte pro.
Oui, en gros, c'est assistance à personne en danger. Alors, s'il se passe... juste une chose pour bien poser le contexte. Il y a 4 jours, hein, le Figaro a publié un bilan sur les interpellations effectuées en marge des rencontres des championnats en France sur les Coupes d'Europe et sur les championnats nationaux. 176 interpellations, dont 123 en marge des matchs des championnats français. Alors, parmi les causes invoquées, déficit de sécurité privée, on va en parler, baisse de vigilance des pouvoirs publics. Et alors, la période Covid qui a eu un effet d'agacement sur les supporters et un effet léthargique sur les pouvoirs publics.
Alors, voilà. Moi, ce que je voulais vous demander à vous deux messieurs, ça fait maintenant un an grosso modo qu'on parle beaucoup de problèmes de sécurité. On va dire que l'ouverture de la séquence, comme on dit en politique, c'est le Nice OM du début de saison dernière. Et dans la foulée, il y a eu beaucoup d'incidents dans les stades et petit à petit, mais de façon plutôt discrète, on n'en a pas énormément parlé, on se disait, mais est-ce qu'il y a un problème avec la sécurité dans les stades, avec la formation des gens qui sont là pour bosser, avec les directeurs de la sécurité? Est-ce qu'on a du mal à recruter? Votre regard au final sur tout ce qui s'est passé, est-ce qu'il y a des choses dans ce qui est dit qui vous agacent? Est-ce qu'il y a des choses où vous vous dites, mais c'est normal qu'on en soit arrivé là? On ne recrute pas, on ne forme pas bien. Finalement, la situation, à vos yeux, comment vous analysez tout ça, vous, l'un et l'autre, peut-être, vos visions l'un et l'autre. Je ne sais pas qui veut commencer.
Vas-y, Florian.
Alors, en fait, Daniel, toutes tes questions, tu peux les transformer en affirmations. Toutes tes questions, c'était les bonnes pistes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans les stades, de une, tu n'as pas assez de personnel. On est en recherche à chaque événement. Alors moi, ça fait... plus de 2 ans maintenant que je n'y travaille plus. On était en recherche à chaque événement de stadier. C'était pour la plupart du temps à 90-95% des intérimaires. Donc, un problème pour recruter. Forcément, vu que c'est des gens qui ne sont pas très assidus aux rencontres de Ligue 1, bah, ils ne sont pas formés. Ils ne savent pas ce qu'ils ont à faire le jour même. On leur donne une tâche sur le tas. Et ça, c'est hyper compliqué. Tu ne peux pas organiser un événement comme un match de Ligue 1, quelquefois guichet fermé, où tu as 38 000 personnes, avec des gens qui, à la base, ne savent même pas où ils mettaient les pieds. Et quand ils étaient recrutés sur le tas, c'est pas possible. Tu peux pas gérer des comportements déviants comme on a aujourd'hui en Ligue 1, des gens agressifs, des gens violents, surtout qu'il y en a toujours eu, avec du personnel comme ça, c'est pas possible en fait.
Mickaël, ta version, ton regard à toi sur les questions que j'ai posées.
Moi, je vais sortir de l'enflamme carrément.
Ouais,
alors, je vais commencer par attaquer le ministère de l'Intérieur quand ils ont créé le CNAPS. Le CNAPS, comme je te disais, Daniel, tu sais comment on a échangé un
c'est
peu.
C'est le Conseil national des activités privées de sécurité. Hein.
Voilà. Comme j'expliquais un peu à Daniel, parce que ça fait quelques temps qu'on échange un peu par mail, c'est une organisation, on a retrouvé deux directeurs qui ont été, on va dire, par des suspicions de corruption, par des appels de marché, des appels d'offres et compagnie. Je ne rentrerai pas dans les détails. Secondement, pour les stadiers, on revient sur une journée de formation. En gros, je prends tout le monde qui est autour de la table. Je vous fais 175 heures de formation, une journée de stadier. Le lendemain, je vous mets sur un match, par exemple, un bon match bien chaud, Marseille-Paris avec stade plein et accueil des Marseillais. Déjà là, il y a un problème, parce que vous n'avez aucune expérience. Secondement, les mecs qui sont au niveau stadier, certains sortent des journées de 12 heures, qu'ils ont attaqué une journée à 5 heures le matin, ils finissent à 17 heures le soir. Et ils doivent enchaîner à refaire 6 heures, par exemple, sur les coups de 18 ou 19 heures quand le stade arrive. Donc la personne est déjà physiquement assez entamée.
Mmh.
Ensuite, la palpation. Moi, j'ai toujours été pro-palpation, la palpation militaire. Elle est plus intrusive, plus agressive. Alors, je vais l'expliquer assez rapidement. quand on a une palpation de sécurité basique, c'est on a la personne en face avec le donc bras droit, il va palper bras gauche et bras gauche, il va palper bras droit. Déjà, or là, la palpation elle est pas valable. Comme j'ai expliqué, je fais de l'audit et il y a pas longtemps, j'ai eu justement un club de Ligue 1 qui nous ont demandé un audit pour savoir en fait
pour tester leur sécurité quoi dans leur stade.
Sécurité. Ouais. Alors, dans le stade, j'ai fait appel à deux autres anciens militaires avec qui j'étais en service. On a réussi à introduire trois automatiques et une grenade factice. Donc, je vous laisse imaginer les dégâts si c'est des armes réelles qui rentrent comme ça dans le stade. Dans le stade, ce qui est possible de rentrer, je le précise bien. Des couteaux, dans les palpations, on en sort, 50, mais il doit en avoir une centaine d'autres qui rentrent.
Et toi, tu recommandes quoi face à ça, Michael, justement?
Déjà, passer à d'autres palpations, ce que j'appelle la palpation militaire. C'est-à-dire qu'elle est beaucoup plus intrusive et plus agressive. Plus agressive, c'est-à-dire qu'on ne va pas cogner le mec. Mais c'est-à-dire qu'avec les deux mains, main droite, main gauche, on va palper un bras, puis l'autre, puis les jambes, le corps et compagnie. Mais tout en continuant de regarder les mains, parce que tous ceux qui ont déjà été au stade peuvent constater que quand, lors de la palpation, le mec, il va palper les bras, tac, tac, en dessous, les trucs. Mais à un moment donné, il va lâcher le regard pour palper en bas. Ce qui veut dire que le mec, il va changer ou automatiquement, s'il a un truc, il va le... Donc, je vais couper là pour pas expliquer, pour pas qu'il y ait des entrées encore plus de trucs dans le stade.
T'as entendu, Mickaël, ce qui s'est passé à Lisbonne, les supporters parisiens qui se sont plaints parce que les stadiers.
Du Maccabi aussi. Maccabi Haïfa aussi à Lisbonne, ouais, c'était plein.
Étaient allés très très loin dans les palpations et probablement beaucoup trop loin. Qu'est-ce que t'as pensé de ça?
Beaucoup trop loin, oui et non, parce que faut savoir que beaucoup de stadiers dans les pays latins, ce sont des mecs qui sont issus généralement de tout ce qui est gendarmerie, militaire. Et donc, ils prennent une. On va dire qu'ils ont une dérogation pour aller carrément faire une fouille.
Oui, après, il y a des limites à pas dépasser.
Après, il y a des choses qu'on a entendues qui étaient quand même un petit. Vraiment
oui,
limite.
Oui,
limite.
Oui, non,
il y a même au-delà de ça.
S'il y a vraiment des mains dans les frocs qui ont été mises, c'est quand même.
Juste, Florian, également, il y a aussi une autre thématique derrière ça dans la sécurité des stades que toi, tu as constaté quand tu bossais notamment à Nantes. C'est l'intervention des commerciaux. Alors, explique-nous ça, parce que là aussi, parfois, il y a finalement quasiment des conflits d'intérêts entre le boulot de l'agent de sécurité et le boulot de celui qui est là pour bosser pour le club.
Ouais, en fait, c'est ça, c'est que nous, en fait, on avait des consignes, que ce soit sur les alentours du stade, donc notamment au parking, des choses comme ça. Si tu veux, il y a des plans, des consignes qui sont données sur qui fait rentrer avec un billet, forcément. Et quelquefois, ça peut arriver que t'es des clients, notamment en loge, des choses comme ça, enfin. Pas que, hein, aussi en tribune présidentielle, des choses comme ça, qui arrivent assez alcoolisées, qui n'ont pas leur billet, donc qui souhaitent rentrer, qui ont un comportement dégradant vis-à-vis du personnel de sécu, et qui, derrière, font le forcing et s'appuient sur les commerciaux et les commerciaux raboulent pour faire rentrer ce client, en gros, ou cette personne qui vient regarder le match, mais voilà, il devrait jamais rentrer. Déjà, c'est pas bon pour la sécurité, c'est une personne alcoolisée, c'est une personne qui va traverser un parking avec un véhicule, il est au volant d'un véhicule, il est alcoolisé et au volant d'un véhicule, et derrière, donc du coup, juste pour le côté commercial, parce que c'est un gros client, il faut le faire rentrer. Voilà, donc il y a des défauts comme ça, les commerciaux aussi peuvent des fois se mêler de ce qu'ils ne regardaient pas, s'il y avait des conflits, notamment... qui fait rentrer, comment les faire rentrer, au nombre, il faut se dépêcher, parce que là, le match va commencer, il faut que un tel, ils soient en tribune, voilà, au détriment de la sécurité, en fait.
Michael, je reviens à ce que tu disais tout à l'heure par rapport au ministère de l'Intérieur, j'ai pas complètement compris. Ce serait quoi la chose que tu dénonçais? C'est que les. Tu peux nous réexpliquer ça, s'il te plaît?
Ben, tout simplement, il y a eu un colloque il n'y a pas longtemps. En Rhône-Alpes-Auvergne, dans la sécurité, j'y ai participé. Et on a, par exemple, dit qu'on pouvait, par exemple, pour les JO, utiliser des jeunes en leur donnant une carte provisoire. Des étudiants, des trucs comme ça, on leur donne une carte provisoire pour mettre de la sécurité. Et à ce moment, dans cette réunion, ça a été proposé par Gérard Darmanin. Darmanin, ministère de l'Intérieur.
Ah ouais.
C'est vrai qu'il y a des raccourcis, il y a des raccourcis qui sont faits au niveau des habilitations comme ça.
Ah ouais, là, c'est important ce que nous a dit Michael. Excuse-moi, Florian, je veux bien, tu vas rebondir dessus. C'est quand même important quand même parce que la sécurité des JO, c'est un sujet qui est central. On en parle partout en ce moment, dans les milieux autorisés, comme on dit. Sujet ultra sensible. On ne trouve pas beaucoup de solutions pour l'instant. Ce que nous dit Michael, c'est un peu inquiétant quand même. Si on veut, on voit bien que le problème, c'est la formation. Si on dit à des étudiants, tu vas t'occuper de la sécurité, ça fait un peu les sons quand même.
Mais pour moi, les JO, ça, si on n'axe pas différemment la chose, pour moi, ça va être un bordel. Il y a des propositions qui ont été faites, mais qui n'ont pas été retenues. Par exemple, faire appel aux réservistes, ce qui serait déjà un petit peu plus cohérent, parce qu'ils ont quand même une formation et tout. Mais ça n'a pas été retenu.
Mais et pourquoi, on a une idée de ça?
Ah ben ça, après pourquoi, moi je ne pourrais pas répondre parce que je n'en sais strictement rien. Mais par exemple, il y aura des militaires, par exemple Sentinelle, qui vont être réappelés à nouveau. Mm-hmm. Mais pour moi, c'est pas la solution. Alors certes, ça va rassurer, mais quid du personnel qui va être embauché, parce que sans formation, une bonne partie sans formation. Des jeunes sans expérience de terrain. Alors, pour l'orientation du public, ok, ça peut le faire. Mais quand on voit ce qui s'est passé au Stade de France, et quand on voit, mais parce que on n'en parle pas souvent, mais en extérieur des stades, mais à tous les matchs, il y a des bordels. À tous les matchs, il y a du bordel. Il y a minimum des agressions, il y a minimum, mais ça, on n'en parle jamais. Mais à tous les matchs, il y en a, que ce soit aussi bien Ligue 1, Ligue 2, que ce soit dans même hors sport, par exemple les concerts, il y a des bordels, il y a des agressions en continu, mais c'est...
Ouais, mais ça, Mickaël, ces problèmes que tu décris là, c'est, on va dire, c'est un peu de la délinquance publique. S'il y a trois mecs qui se bastonnent à 20 mètres du stade, le gars qui s'occupe de la sécurité du stade, qui est censé contrôler le mec qui rentre, il va pas aller régler ce problème-là, malheureusement, il peut pas.
S'il est dans son champ de secteur, ça peut être considéré comme des supporters qui se battent.
Alors les gars, je parle sous votre contrôle, hein, Florian et Mickaël, mais les événements culturels et sportifs, il n'y a pas d'obligation à ce que toutes les personnes qui assurent la sécurité soient justement encartées et soient formées avec cette fameuse formation d'agent de sécurité.
Ouais, mais c'est justement peut-être là qu'il y a le problème.
Bah oui.
Parce que les mecs n'ont pas la formation et les compétences pour assurer la sécurité, c'est ça qu'ils sont en train de nous dire.
Ouais, ouais.
Mais ce qu'il y a également, c'est qu'un agent de sécurité n'a pas la formation pour faire de la sécurité sur la voie publique.
Toi, Mickaël, ce que tu dis, c'est qu'en gros, là, on appelle agents de sécurité des gens qui finalement pourraient faire n'importe quoi. Enfin, toi, ce que tu veux dire, c'est que finalement, c'est un métier, quoi, en gros. C'est un métier, c'est un vrai métier avec des compétences et une formation. C'est pas genre le gars, parce qu'au Stade de France, pour en revenir à ça, parce que c'était un peu l'apothéose de la saison dernière en mode bordel. Ce que tu dis, c'est que c'est aussi dû à ces agents de sécurité qui ont été recrutés au dernier moment.
C'est même la police qui est montrée du doigt par les rapports. Hein.
Alors la police, c'est encore autre chose. Mais les agents de sécurité qui ont été recrutés au dernier moment sur Facebook, qui se sont retrouvés là, qui ont fait rentrer des potes à eux, c'est un métier. Ça peut pas être des mecs qu'on recrute au dernier moment. C'est ça aussi que tu veux nous dire.
Non, mais c'est en global. C'est un tout. Par exemple, comme j'expliquais, sur un de mes mails où je t'expliquais, c'est on recrute par exemple ce qu'on appelle, quand on est dans un secteur chaud, on va recruter ce qu'on appelle des grands frères, des mecs issus des cités, pour jouer le grand frère et puis de calmer les autres, parce que s'ils vont foutre le bordel à côté, en dehors dans le quartier, ils vont se faire péter la gueule. Ça s'est fait beaucoup pendant un temps du côté de Lyon. Mais c'est monnaie courante, je veux dire, c'est monnaie courante quand on est dans un secteur chaud, ce qu'on appelle, on recrute les trucs, on va recruter un, deux grands frères qui vont faire voilà. Au milieu, ils vont laisser passer une, deux personnes pour parce qu'ils connaissent, ils vont passer par sans billets et autres. Mais bon, ça se fait dans à peu près les concerts, dans tous les machins. Mais bon, on en laisse passer un, deux, trois, et derrière, il y en a cinq, six qui vont pas pouvoir entrer. De là commence le bordel. Par exemple, c'est... Pour revenir au métier de la sécurité, c'est bien précis, c'est pas pour rien que, par exemple, je vais dévier un peu, mais je vais partir sur de la sécurité industrielle, par exemple les sites pétrochimiques, c'est pas pour rien que... Alors certes, il y a la carte pro, mais parfois sur certains sites, on a trois mois de formation avant d'être titulaire sur un poste. C'est, par exemple, les agents On retrouve en magasin les SIAP, c'est pas pour rien qu'il y a justement un SIAP.
C'est quoi un SIAP, Mickaël ? On ne sait pas tout ce que c'est.
C'est le service incendie aide à la personne. En gros, pour tout ce qui est inspecteur, évacuation en cas d'incendie et compagnie. C'est pas pour rien que chaque métier, comme le maître chien également, a une formation spécifique. Le convoyeur de fond a une formation spécifique.
En fait, t'es en train de nous dire qu'en gros, dans les autres secteurs, les métiers liés à la sécurité, bah, les mecs sont formés, c'est tout est carré. Et dans les événements sportifs...
Non, pas tout est carré. Mais le secteur de la sécurité, il y a des grosses défaillances. Dans tous les postes, il y a des grosses défaillances. Il y a vraiment des grosses défaillances.
Mais est-ce que c'est aussi dû au personnel qu'on ne trouve pas ? Avant même de penser comment il est formé, est-ce qu'on a du mal à recruter ?
C'est ce que tu disais, Florian, tout à l'heure, d'ailleurs, quand tu disais on prend des mecs qui ont des profils différents au dernier moment.
Ouais, c'est ça. C'est qu'il ne faut pas oublier, en tout cas, nous, ça fonctionnait comme ça au Stade de la Beaujoire. C'est de l'intérim. C'est des extras, comme disait Mickaël aussi. C'est des mecs qui ont un autre métier, à la base, qui font ça juste pour mettre du beurre dans les épinards, en fait. Et derrière, tu te retrouves avec 90% des gens qui n'ont aucune formation à la sécu, qui sont là juste...
Et puis peut-être qu'ils s'en foutent s'il y a un peu de bordel.
Voilà, mais t'as tout compris, Daniel, c'est exactement ça. C'est, en gros, tu vas leur dire, bah écoute, tiens, regarde là, ça chauffe un peu. Qu'est-ce que ça lui fait ? Il a envie de s'en prendre une par un supporter qui est pas content. Non. Il va rester assis, il va rester à regarder, et il y a aucune intervention, en fait, si tu veux. Donc, est-ce qu'on peut leur reprocher ? Moi, je pense pas, puisqu'on leur dit, écoute, tu peux venir bosser au stade comme ça, juste sur un coup de tête. Donc, c'est aussi de la faute de ceux qui recrutent. Derrière, dans les stades de foot, je pense pas que la Beaujoire soit le seul stade à faire ceci. Parce que va trouver, je sais pas combien, 500 agents de sécu comme ça pour un événement de Ligue 1 à chaque fois, je pense que ça fait beaucoup. C'est impossible.
Et vous diriez, Mickaël, par exemple, vous diriez que si parce que Vincent Labrune l'autre fois dans une intervention disait il faut arrêter les criminels qui vont dans les stades, vous auriez envie de lui dire mais fais en sorte que déjà tes services de sécurité, que la Ligue par exemple investisse réellement dans la sécurité des stades en France avant de tenir des beaux discours.
Non mais déjà de une, oui, qui donne du personnel au club de foot. Enfin, chaque club recrute, mais qu'ils en mettent aussi dans les stades au niveau de la Ligue. Mais surtout, attends, Daniel, c'est que les gens agressifs, les gens violents, on les connaît hein, dans les stades. Hein. Souvent, c'est les mêmes, ils reviennent à tous les matchs. Qu'ils soient alcoolisés, qu'ils aient des insultes, qu'ils soient violents, les mecs, ils sont là au match suivant. Il n'y a pas de tolérance zéro en France.
C'est juste c'est la justice de bosser même. C'est même plus, c'est pas la Ligue qui peut. C'est les clubs ou la justice qui peut suspendre un mec, l'interdire de stade ou quoi que ce soit.
Bien sûr, mais le problème, c'est qu'on fait rien, puisque justement, on laisse tout faire. En tout cas, dans les stades de foot, moi, c'est ce que je vois. On laisse tout faire. Les mecs violents, les mecs alcoolisés, les mecs qui ont des propos, des fois très, très limites, tendance raciste, on les laisse revenir au match suivant. Et ça, c'est pas normal. Alors qu'on les connaît. Il y a une caméra, il y a une vidéo, mais derrière, forcément, il y a une justice à deux vitesses. On en revient toujours au même principe.
Florian, Mickaël, merci d'avoir été avec nous.
Merci vous deux pour vos témoignages.
Il y a moyen de faire passer un petit coup de gueule, une minute.
Vas-y, on les grave à la bourre, mais au moins on en est.
Ok. Donc voilà, ce que je voulais faire, c'est, je vais essayer de le faire le plus rapidement possible, justement, que vous parlez de la justice, qu'elle ne fout rien. Il n'y a pas longtemps, comme vous savez, il y a la gamine qui s'est fait massacrer. Moi, mon coup de gueule, c'est ceci aurait pu être évité, mais c'est que les années passent. On a le droit des ministères, au ministre de l'Intérieur, au ministre de la Justice, qui sont complètement laxistes. Ils n'appliquent aucune loi, qui laissent faire ce qu'ils veulent. À un moment donné, que ce soit le président, c'est pareil, ils sont censés être là pour protéger les gens. Dans les stades, tu vas revenir au foot. Maintenant, y aller avec son gamin, c'est presque amener son gamin à l'abattoir. Donc à un moment donné, mon message s'adresse aux politiques en place et aux politiques futures. Bougez-vous le cul. Sincèrement, bougez-vous le cul.
Bon, le message est passé en tout cas. Merci Florian. Merci et Mickaël. Bonne soirée les gars.
Vous m'accordez une petite dédicace rapide. Allez, dédicace à mon pote.
Je suis en train de me faire tuer dans les oreilles, mais vas-y.
Dédicace à mon pote Teddy qui fait le tour du monde et à mon pote Damien aussi qui est auditeur et fan de l'after. Voilà.
Et voilà, nous écouterons en podcast. Merci beaucoup. Merci Florian et Mickaël. Alors, on revient pour, je pense, le talk le plus court de l'histoire de l'after.
On dira au revoir.
Ouais, voilà, exactement. Allez, à tout de suite.
RMC, 22h, minuit, l'afterfoot.
Nicolas Villas.
Avec Daniel Riolo, avec Flo Gautreau. On en a fait beaucoup de choses hein, ce soir, hein, les gars. Il nous reste 2 minutes 48.
Voilà. Non, c'est pas si court, c'est long même pour dire au revoir.
C'est vrai?
Comment veux-tu que je te dise au revoir? Tu veux que je te dise au revoir en toutes les langues?
Ouais, c'est même comme ça, je
crois. Bravo, monsieur.
Voilà, bah, j'ai fait n'importe quoi avec le chrono ce soir. Si, je voulais juste glisser un mot, parce qu'on n'a pas eu le temps d'en parler, on devait le faire également. C'est que samedi 17h, il y a l'affiche entre deux équipes en crise, Montpellier et Lyon. Hier, on a parlé de la première de Laurent Blanc. Et à Montpellier, hier, Laurent Nicolin avait convoqué la presse pour annoncer le départ d'Olivier Dalloglio, remplacé par Romain Pitot, qui prend le relais jusqu'à la trêve. Cinquième entraîneur de Ligue 1 viré en l'espace d'une semaine. Flo, t'avais fait un avis tranché il y a 15 jours.
Normal, Flo, il avait annoncé.
Ouais, mais c'est ça qui est fou. T'as eu du pif, hein, Flo.
Ouais, j'ai eu du pif, mais je pensais même pas que ça irait si vite parce que l'autre fenêtre la plus probable, c'était celle de la Coupe du Monde. Parce que, on s'attendait à ce qu'il y ait des départs pour qu'il y ait une nouvelle préparation, un nouveau recrutement. Et on pensait que ça viendrait un peu plus tard. Il y a un effet d'entraînement aussi. Pour le coup, sur ceux qui viennent de tomber là. C'est-à-dire que voyant que leurs collègues pensent que la solution pour éviter ces quatre dernières places, c'est de virer l'entraîneur, ils sont allés plus vite que prévu. Donc je dirais qu'il y a eu un effet d'entraînement et c'est pas terminé parce que Angers, Baticle, c'est de toute façon compliqué et ça pourrait l'être dans les semaines à venir. Donc
Stéphane,
bien sûr, il peut être menacé également. Donc, même si c'est pas le style, après, ça dépend des styles de clubs. Mais on s'aperçoit que même des clubs qui parfois faisaient confiance.
Le style de club.
Le club où tu descends.
À un moment, vu le nombre de défaites, ça peut devenir le style de tout le monde. Hein.
Ouais, mais enfin, on voit quand même que là, c'est panique à bord. C'est-à-dire que quand j'ai fait la vie tranchée, je disais qu'il y avait toutes les raisons pour qu'il y en ait plus que d'habitude. Et peut-être
là,
un
c'est
peu
surtout
plus tôt.
C'est tout d'un coup, c'est ça qui est.
Mais là, c'est très tôt, c'est beaucoup, et je dis encore une fois, c'est pas fini parce que la trêve, la vraie trêve, comme disait Daniel, c'est une deuxième saison qui va commencer. La Coupe du Monde laisse encore une opportunité pour que d'autres partent. Donc c'est incroyable, mais les circonstances de cette saison avec les quatre descentes et la Coupe du Monde pouvaient le laisser penser.
Il y a pas mal de rumeurs, hein, c'est en train de se peaufiner.
Parle de Lamouchi à Montpellier.
Ouais, de Pélissier à Auxerre, c'est en train de se.
Non, Pélissier, c'est fait.
Voilà, c'est fait.
Pélissier Auxerre, c'est bouclé. Il reste qui comme club à pourvoir?
Brest. Ça parle de Gourvennec, notamment, entre autres. Mais ça a parlé de
Brest, il ne va pas continuer, Grougy?
Ils sont trois, là. Ils sont trois, pour l'instant.
Tu le vois comme ça, toi?
Je me demande si Grougy va pas.
La Schmer, l'entraîneur des gardiens et Grougy. Pour l'instant, c'est un partage à trois.
Et le Strasbourg, l'autre problème, quand tu dis c'est pas le style, c'est qu'à un moment, il n'y a plus personne sur le marché. Hein? Tu crois, après, il ne faudra pas que ce soit le style Thierry Goudet.
Bah non, mais je l'aimais bien, Thierry. Je kiffe Thierry, moi. Je l'embrasse d'ailleurs. Et ça fait longtemps que t'en parlais pas.
Il reste Claude Puel.
Et qui sera avec nous d'ailleurs dans l'after dans deux jours.
Jeudi soir.
Exactement.
Et demain soir?
Sydney Govou.
Sydney Govou.
Alors, qui devrait faire les deux heures avec nous.
Il fait toute l'émission avec nous. Il a intérêt.
Ouais, je pense qu'il fera les deux heures.
Il a intérêt à Sydney. Parce que demain, j'ai raté un gros truc pour être là. J'avais prévu, je devais pas venir. Je suis là pour lui.
Si Sydney Govou et Claude Puel sont là, c'est parce qu'ils ont écrit un livre tous les deux d'ailleurs. Et alors, ce qui est bien, c'est que les deux abordent des sujets d'actualité. Voilà, donc c'est pour ça que Sydney, notamment, sera avec nous demain pendant
Sydney,
deux heures.
Sydney, il a posé un coup de gueule sur Twitter, je vous le conseille aujourd'hui, où il a traité quelqu'un de tringle à rideau.
De tringle à rideau? Ah, mais c'est un taré.
Tu dis ça pour moi,
c'est vrai.
Je n'ai pas vu le coup de gueule. Vous êtes gentil, vous me les envoyez.
Merci les mecs. C'était contre qui?
C'était qui la tringle à rideau?
Non, c'était, je crois, lié au ballon d'or de Benzema. Et c'était une remarque à caractère raciste.
Ah.
Et donc, Govou a répondu très clairement à une.
Ah, un anonyme.
Un anonyme, mais. Oh, ouais. Mais voilà, il a sorti la tringle à rideau.
Et ben c'est dit. Merci beaucoup, Flo Gautreau. Salut. Merci, Daniel Riolo. On se retrouve demain. Oh. On sera donc avec Sydney Govou qui sera avec nous dans l'after. Merci, Paul Vexio à la réalisation, Jérôme Thomas à la production. À demain. Bisous. Prenez soin de vous.
RMC jusqu'à minuit.
L'after foot.